moitié de rue.
Un quartier.
C'est là où on habite.
Là
où il y a notre maison.
Là. Un quartier. C'est fait pour se balader, pour faire du shopping, profiter pour prendre l'air, quoi. Pas rester tout le temps tout seul chez soi, tranquille. Un quartier. C'est où on connaît nos voisins. C'est l'endroit où on se retrouve avec nos amis. Un quartier.
C'est pour séparer toutes les rues de la ville. Parce que s'il n'y avait pas de quartier, on serait tout serré.
Un quartier, c'est unique parce qu'il n'y en a qu'un seul. On ne peut pas le reproduire. On ne peut pas le refaire avec les mêmes détails.
C'est où il y a différentes choses et ça permet de se balader et de construire des immeubles.
Un quartier.
C'est beaucoup de bâtiments rassemblés les uns après les autres.
Après les autres. Un quartier.
C'est beau, il y a plein de gens, il y a des voitures, des vélos et de l'air.
Un quartier.
C'est quand on peut marcher tranquillement. Marcher. C'est un beau paysage, disons ça comme ça.
Un quartier, c'est unique parce qu'il n'y en a qu'un seul, on ne peut pas le reproduire, on ne peut pas le refaire avec les mêmes détails. Un quartier,
c'est sympa, bien fréquenté, très animé. Et quand il est désert, c'est mortel, il n'y a personne qui passe. Souvent, il y a des rues et des travaux.
Un quartier.
Ce serait mon quartier, mon beau quartier.
Le mien.
Et je déciderai de qui rentre dans mon beau quartier.
Le mien. Un quartier.
Saura vous séduire par sa vitalité.
Un quartier.
C'est pour sortir le soir, habiter de bars et de petits restaurants très sympas.
Un quartier, c'est unique parce qu'il n'y en a qu'un seul, on ne peut pas le reproduire, on ne peut pas le refaire avec les mêmes détails. Un quartier, c'est l'endroit mystère de la ville. Un quartier,
c'est un lieu mythique, resté dans son jus d'origine.
Avec les mêmes détails. Un quartier.
Bonjour à tous. Donc, vous venez de voir ce que nous avons appelé le teaser du projet que nous vous proposons aujourd'hui, que nous avons rebaptisé Baba pour Bacalan Bastide. L'idée est de réaliser un guide décalé de ces quartiers-là par ses habitants. Alors, par ses habitants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un an, on va travailler avec les structures de ces quartiers-là. Les écoles, les centres d'animation, les bibliothèques, les associations, tous les gens qui sont là-bas, également de manière informelle, en allant sur les marchés, etc. Nous allons recueillir la parole de ces gens-là autour de l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire d'hier, mais aussi les endroits où il faut manger, les endroits où on peut acheter des souvenirs, des vêtements, etc., etc. Mais tout ça vu depuis les gens du quartier. Voilà, l'idée, c'est que ce soit une invitation des gens d'ici pour inviter des gens de partout à venir ici. Voilà, en gros, ce projet. Donc, il débute réellement la semaine dernière, avec des balades, avec des ateliers, etc. Et Si tout va bien, dans un an, en septembre 2015, pendant les journées du patrimoine, il y aura donc, ce que vous avez vu dans la vidéo, hein, une énorme exposition dans laquelle on fera sortir la parole de ces gens, de tous ces gens qu'on aura rencontrés, alors sous forme de ce qu'on appelle les permissions d'afficher. C'est ce que vous voyez sur le petit visuel là, sauf que c'est 4 fois plus grand. Voilà, les permissions d'afficher, c'est ça. Donc il y en aura partout sur les murs, j'espère chez les gens, chez les commerçants, etc. Il y aura également un spectacle avec des chansons, avec des petites vidéos, etc. Et on espère que des gens du quartier vont s'approprier le fait de devenir guide de leur propre quartier et faire des visites de ces quartiers-là. Voilà en gros ce projet-là. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous présente l'association et d'où ça vient, ce projet-là, d'où vient-il ? Pas de questions ? Bon, bah, je continue alors. Donc ce projet est porté par l'association N'a qu'un œil. Ben, j'arrive pas à mettre l'image. Un petit problème technique, mais bon. Donc c'est une association qui a été créée au siècle dernier, en 1996, autour du livre et de ses mises en vie. Voilà, et donc depuis, nous venons juste d'atteindre notre majorité fin avril. Et pour mener à bien ce projet-là, on a l'habitude de dire qu'on a 4 actions. Donc la première action, c'est publier. Voilà, je vais le mettre plein écran. Merci. Publier, mais dans l'idée de faire des livres avec des gens. Donc là, vous avez un exemple de ces livres-là que l'on peut faire circuler ou que vous pourrez regarder après. Donc en gros, il y a 2 façons. Il y a des projets d'art participatif dans lesquels nous embarquons des gens. Donc l'exemple le plus clair, c'est celui-ci. Donc c'est moi qui vais vous faire passer les livres. Hein. Ça sera mieux que de rester assise avec un micro. Voilà. Et en voilà un autre. Donc ça, ce sont des dictionnaires. Et l'idée, c'est d'attraper les mots au moment où on les a dans sa tête et où on essaye de les sortir pour aller les mettre dans l'oreille d'un autre. Au moment où on va les traduire de son propre univers pour essayer de le faire comprendre aux autres. Donc évidemment, il y a des choses qui sont fausses. Hein, par exemple, si vous regardez dans celui qui est en plastique, le blabla 2, la définition, bah, madame, la définition de la méduse, vous verrez que c'est gluant et tout rebondissant, et qu'au Moyen-Âge, les gens utilisaient des fils de méduse pour faire de l'électricité. Alors, bien évidemment, ce n'est pas vrai, et l'idée, ce n'est pas de faire des choses vraies, enfin, en tout cas, d'essayer de trouver la vraie définition des mots, mais plutôt d'utiliser le dictionnaire qui est le support le plus populaire du livre. Pour nous, ce qu'on appelle, nous, l'espace public du livre, puisque tout le monde a un dictionnaire chez lui, ou du moins, dès qu'on a un enfant, on est obligé d'acheter un dictionnaire quand il rentre au collège. Donc, c'est au moins le livre que l'on a chez nous. Voilà, d'utiliser cette forme qui est universelle pour raconter les histoires des gens et aussi sculpter le langage et sculpter le mot avec un ici et maintenant qui ne s'arrête jamais. Voilà. Donc nous en sommes au numéro 3. Le 4 est censé sortir cette année. Et nous nous arrêterons quand on sera à l'encyclopédie de la lettre Z ou quand l'association n'existera plus. C'est vraiment le projet d'une vie, en fait. Voilà. L'idée aussi dans ce dictionnaire, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans le BABA, donc dans le guide décalé des quartiers Bacalan-Bastide par ses habitants, c'est de mélanger les niveaux de langage, de faire qu'on retrouve des enfants, des personnes âgées, mais qu'on retrouve aussi des érudits, des gamins dans les centres sociaux, le plus possible de gens différents, comme autant de points de vue différents sur un territoire, dans le cadre du BABA, mais aussi sur un monde dans lequel on vit, dans le cadre du blablabla, le dictionnaire que vous voyez, enfin qui circule devant vous. On a des extensions de ces dictionnaires que je vous fais passer aussi. Voilà. Donc, l'un d'eux a été réalisé avec des adultes trisomiques pendant 2 ans. Donc, c'est la même chose, hein, c'est classé par ordre alphabétique. Il y a des images, des mots et bientôt il y aura des sons également. Voilà. Et on en a un qui sort tous les ans, qui est réalisé dans les lycées, qui s'appelle Le saviez-vous. Donc là, vous avez le numéro 1 et le numéro 2. Et ces livres sont également accompagnés de CD dans lesquels on va faire de la musique, on va enregistrer les ateliers, on va enregistrer les gens dans la rue, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est publié. On s'est aussi attaqué à une deuxième forme cette année, qui est la carte postale. Donc, je fais circuler les livres parce qu'ils parlent beaucoup mieux que moi, parce qu'ils sont faits pour ça, en fait. Voilà. Donc, cette collection qui s'appelle la collection Imagerie, l'idée, c'est de proposer à des artistes, enfin, des utilisateurs d'images, pour être plus précis, de tous bords, d'utiliser cet espace-là. Donc, cet espace-là, c'est de 24 à 48 vues qui sont détachables. Et donc de l'utiliser vraiment comme un espace d'exposition. Sachant que, évidemment, comme ce sont des cartes postales, on peut les détacher, les envoyer, et donc ça devient un bout qui est tout autonome, même s'il fait partie d'un tout. Mais ça peut être aussi, et on l'a vu parmi nos lecteurs, une exposition qu'on va reconstituer chez soi, ça peut être aussi le catalogue d'un projet, etc., etc. Dans les cartes postales, nous avons également ce travail-là, donc je vous en montre qu'un tiers, puisque les deux tiers viennent de nous être volés sur notre stand le temps que nous fumions une cigarette. Donc c'est toujours la même idée, hein, on a l'habitude de dire qu'on travaille dans le vulgaire, mais au sens propre du mot, c'est-à-dire dans le vulgus, ce que l'homme a de commun. On essaye vraiment de s'intégrer dans ces espaces-là. Et là, on s'est dit que dans les villes, il y avait des cours Victor Hugo, des cours Xavier Arnauzan, tout ça, des gens qu'on ne connaissait pas, qui sont un peu morts pour la plupart, et que nous, on avait envie de redonner un petit peu de vivant à tout ça, en étant évidemment toujours très sérieux. Donc, nous avons fait un travail qui s'appelle « Villes et célébrités de la France entière », où l'idée, c'est de redorer les panneaux des villes. Donc, je vous laisse découvrir. Voilà pour ce qui est du publié. La deuxième action que nous menons au sein de cette association, c'est diffuser. Évidemment, comme vous pouvez le voir, nos livres sont difficilement vendables. Donc, on a tout un comptoir d'éditeurs de livres qui sont tout aussi difficilement vendables que les nôtres. Et ces livres-là, on les prend de manière complètement objective. Subjective. Ça veut dire qu'on ne prend que les livres qu'on aime, dont on aime les démarches, et surtout on est capable d'accompagner ces démarches-là. On passe plus par la démarche de l'artiste que par le produit qu'il a réalisé à un moment. Voilà, donc je vous invite à venir voir chez nous, au 19 rue Bouquière, où il y a des livres, des CD, des DVD, des sérigraphies, quelques petits objets. Bientôt un rayon papeterie de carnet fait main, etc., etc. La troisième action de notre association, on l'appelait « se manifester », avec un point d'exclamation à « manifester » et le « se » entre parenthèses. C'est très important. Tous les mois, nous organisons une soirée dans laquelle nous essayons de croiser des pratiques artistiques. Alors, ça peut être des expositions, des expositions, des concerts, des lectures de poésie contemporaine, des performances, etc. Et tout ça autour d'un des livres de notre comptoir, qu'il y soit ou s'il n'y est pas, il va le devenir par cette soirée-là. Voilà. La prochaine soirée a lieu le 26 septembre, donc un vendredi. Ce sera une exposition d'un illustrateur et auteur jeunesse qui s'appelle Régis Lejon, qui a travaillé autour des oiseaux, qui a sorti un livre dans la collection Imagerie, qui n'est pas là non plus, qui s'appelle La Volière. Il y aura également un concert du Crumble Club, qui sont Arthur, Alfred et Olivier K, qui ont fait un set spécialement autour des oiseaux. Et nous finirons par une boum des oiseaux, qui est un set avec juste des chansons autour des oiseaux. Voilà pour vous donner une petite idée. Donc toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur naquindeuil.com, donc très facile à retenir. Et vous avez notre catalogue, vous avez nos actions, mais vous avez aussi des vidéos, des lectures ou des performances ou des expositions qui sont passées chez nous depuis très longtemps. Et la quatrième action, on l'appelait faire suivre. Et se faire suivre, et ben c'est tous les ateliers, toutes les rencontres qu'on peut faire, les formations, etc., etc. Voilà en gros les actions de notre association. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Il y a un deuxième micro hein, pour vous, je crois. Je le mets là. N'hésitez pas à vous en emparer et à poser des questions.
Je vais poser une question moi, sur l'opération dont vous avez parlé sur Bacalan.
Oui.
Comment vous êtes arrivé sur Bacalan? Comment a été est-ce que c'est un appel d'offres? Est-ce que c'est un appel à projet? Est-ce que c'est une démarche associative? Enfin, comment ça se passe?
Alors, ça fait quelque temps qu'on fait ces guides décalés des villes ou des quartiers. Et ça fait quelques années également qu'on travaille à Bacalan. Alors moi, ça fait très très longtemps que j'y vais parce que je faisais de la mécanique au garage moderne et que du coup, j'ai passé pas mal de temps à le visiter, à le voir se transformer et tout ça. Et puis, depuis, je sais pas, ça doit faire 7-8 ans, on fait des ateliers avec la bibliothèque de Bacalan et avec Michel, le directeur de Bacalan. Et c'est vraiment une super rencontre. C'est à la fois avec les habitants et aussi avec Michel. Donc, quand on a décidé de faire ce projet-là, eh ben, on a essayé de choisir deux quartiers. Et le premier, ça a été Bacalan, pour Michel, en fait, pour pouvoir continuer à travailler avec lui. Et aussi parce que ça allait se transformer, aussi parce qu'il y avait un public de gens du voyage, qui sont des gens avec lesquels, moi, j'avais très, très envie de travailler, que j'ai croisé dans les écoles, dans les centres d'animation, etc. Mais je me suis dit, voilà, là, c'est vraiment aussi les moyens de travailler avec eux, puis aussi de voir ce que c'est qu'habiter un quartier de ce point de vue-là. Voilà, pour le choix de Bacalan. Et la Bastide, c'est parce que moi, je venais de m'y installer, quand on a choisi ça, et que c'était aussi une façon d'habiter son propre quartier. Il me semblait que c'était juste de faire cette action-là aussi dans un quartier qu'on découvre parce qu'on y vit. Voilà.
Je poursuis un peu sur la question de l'opérateur et du maître d'œuvre urbain. Comment est-ce que c'est financé uniquement par les ateliers que vous faites avec les centres sociaux? Et c'est un travail itératif comme ça, de petits bouts d'atelier en atelier? Ou est-ce qu'il y a
Alors, on a pris les choses en main cette fois, justement. Ça veut dire qu'on est parti de notre désir et on a cherché de l'argent pour ça. Ça a été très compliqué. On a travaillé deux ans pour ça. On s'est bien rendu compte que si on voulait monter des projets d'envergure et avoir des partenaires, ben c'est pas les partenaires qui allaient avoir des sous parce qu'ils en ont de moins en moins eux aussi. Et voilà, par exemple, Michel, il réussissait à débloquer 200-300 euros par an pour qu'on puisse intervenir. Donc inutile, même des fois 500, mais inutile de vous dire que ça réduit énormément les projets. Là, on avait vraiment envie de se donner les moyens. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait des dossiers de demande de subvention à la ville, puisque ça touche quand même la ville. Ensuite, on s'est rendu compte que c'est des quartiers qu'on appelait SCLUX, des zones urbaines sensibles, et le CUX aussi, qui est la cohésion sociale. Voilà. Je l'andouille avec les sigles parce qu'on n'y arrive jamais. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces dossiers-là, on a rencontré beaucoup de monde, je pense qu'on a touché beaucoup de monde. Et puis, on n'a pas eu d'argent. On a eu juste... donc, c'est quand même un budget à 50 000 euros parce qu'il y a 2 ans de travail. Donc, il y a 1 an sur l'opération, mais il y a aussi 1 an de post-production. Il y a l'édition d'un livre qu'on aimerait gratuit pour tout le monde. Donc, ça coûte des sous. Il y a l'embauche de plein d'artistes dans ce projet-là. On est 4 et on essaye d'être 5-6 pour travailler là-dedans. Voilà. Donc, on a a réussi à obtenir 2000 euros de la préfecture sur justement ces zones urbaines sensibles et sur la politique de la ville. Donc on a été très tristes et on est parti voir des gens privés en fait. Et c'est parce qu'on a obtenu 12 000 euros d'une fondation. Non, c'est pas une fondation, c'est
un fonds de dotation à Paris, Impact, et qui nous ont financé 12 500 euros. Ouais.
Voilà, donc vous venez d'entendre Amélie Delberg, qui travaille chez nous et qui est responsable du projet BABA. Voilà, donc ces personnes-là, on a été les rencontrer en juin. On a travaillé avec eux réellement à l'écriture d'un dossier et on va dire en octobre, on savait qu'on avait ces sous-là qui nous ont été versés en décembre. Donc c'est quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude et ça a vraiment été, ça a vraiment été super quoi. Voilà, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Donc on a été voir les acteurs locaux. Donc là, toutes les institutions, à savoir la mairie, le conseil régional, la DRAC, le conseil général. Et on leur a dit, voilà les gars, c'est un peu votre territoire et on amène quand même une grosse partie de ce budget qu'on a été chercher Place Vendôme à Paris. Voilà. Et le fait qu'il y ait eu cet argent-là a débloqué d'autres financements. À ce jour, il nous manque 15 000 euros qui correspondent en gros à la production du livre. Donc on s'est dit que tant pis, on y allait, on fonçait, on commence, que les partenaires nous attendent, nous on a super envie de faire ce travail-là, et puis on verra. Voilà. Mais je pense que de toute façon, ça sera de l'argent. Donc soit on fera des appels à souscription pour le guide, et du coup il sera obligé d'être payant, ce qui nous embête un peu. Soit, dans ce cas-là, enfin si jamais, alors je pense qu'on ira voir d'autres privés, et on va essayer de développer un mécénat local pour essayer de trouver cet argent-là. Sachant qu'on est de bons artistes, mais qu'on est très mauvais en communication et en recherche de financement, parce que ce n'est pas notre travail. Je vais vous faire circuler un autre, une espèce de tout petit guide qui est bilingue parce que il a été amené à Los Angeles, ville jumelée avec Bordeaux. Donc ce sont des enfants du quartier Saint-Jean à Bordeaux qui vont travailler avec deux artistes de notre association qui s'appellent Émilie Fenouillat et Julie Duarte, qui ont fait quatre séances ou cinq de découverte du quartier avec ces enfants. Et voilà, ça a donné ce livre-là. Vous avez d'autres questions par rapport à ce BABA? Merci, monsieur.
Je continue avec mes obsessions. Est-ce que vous avez une méthodologie ou est-ce que vous avez une sorte de charte, un peu d'intervention? Comment est-ce que vous comptez prendre ces habitants par l'oreille, par l'œil, par la bouche? Ou comment est-ce que vous comptez les amener à produire ensemble? Enfin voilà, est-ce que vous avez des partis pris?
Alors, on a l'habitude de dire, ce qui est très déstabilisant pour nos partenaires, que notre matière première, c'est l'autre. Et on est vraiment dans cette relation à l'art participatif. Ça veut dire que nous, notre travail, nous, on est des artistes. Et notre métier, c'est d'inventer des formes. Voilà. Donc on a des trucs, on va dire qu'on a des trucs de plasticien. Par exemple, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on l'enregistre et pour qu'il dise « bonjour, je m'appelle » avec son nom et puis parfois autre chose. Comme ça, on a aussi une voix, on a aussi une collection. On fait de temps en temps, assez souvent, de plus en plus souvent, je vais dire, des collections de grimaces aussi avec les gens qu'on rencontre, parce que c'est une façon de se présenter qui est ludique et qui, quand il y en a une... ça fait un peu insolent, mais quand il y en a 500, eh ben, il suffit de mettre une musique dessus et c'est une façon de voir les gens dans la gaieté avec les yeux qui brillent, etc. etc. Et c'est aussi une façon de ne plus avoir peur de son image, parce qu'on n'est pas beau, on n'est pas, Enfin, la question, c'est pas est-ce que notamment avec les ados, c'est très compliqué ça. L'image de soi, et là, avec la grimace, c'est complètement dépassé. On est tous moches, on est tous déformés, et voilà, donc ça passe. Et ensuite, on a des formes, comme ces permissions d'afficher, comme des vidéos, comme ces carnets-là qu'on va exposer. Donc c'est pareil, un, c'est rien, mais quand il y en a 300 qui ont le même format, avec des contenus différents, qui sont des contenus intimes, qui sont des vues de chacun, bah là, ça raconte quelque chose. Voilà. Et on fonctionne beaucoup par collection, parce que ça veut dire que ce n'est pas une seule personne, c'est une personne par rapport à une autre personne, par rapport à une autre personne, etc. etc. Ce qu'on développe déjà dans le blabla, hein. ce qui est intéressant, ce n'est pas une définition, mais c'est 2, 3, 4, 5 définitions, les unes à la suite des autres, et le saut que va faire le lecteur entre ces définitions, puisqu'on passe d'un enfant à une personne du troisième âge, à un ami à nous, à quelqu'un qu'on a rencontré un jour dans un bar, etc., etc. Donc voilà. Mais par contre, ce qu'on essaye aussi, c'est de toujours rester libre dans nos formes pour pouvoir les inventer avec les gens. On n'a pas envie de faire rentrer les choses dans un projet qui existe déjà. On essaye plutôt à l'inverse de concevoir des projets suffisamment larges de manière à pouvoir inventer des choses avec ce qu'on va faire, avec les rencontres en fait. C'est les rencontres qui ont fabriqué ces chantiers-là. Les permissions d'afficher, bah, ça a été comment envahir l'espace urbain avec une forme reconnaissable, avec un signe le plus, on va dire, universel possible, qui ne se mélange pas avec les signes qui existent déjà dans l'espace public. Donc ça s'appelle les permissions d'afficher, mais pendant des années, nous, on les a appelées les fumetus, parce que c'est ce qu'il y a sur les paquets de cigarettes. C'est la même typo, il y a la notion d'avertissement, il y a le noir et blanc, le cadre, etc. Voilà, cette forme-là, elle est née à Port-Sainte-Marie, quand on s'est posé cette question-là. À Saint-Michel, par exemple, on a fait la même chose dans le quartier Saint-Michel il y a des années. On a créé une collection qui s'appelle les cordelles, qui sont des petits livres. Donc les cordelles, ça vient du Brésil, et ce sont des pages à quatre pliées en quatre avec juste une couverture. C'est de la littérature de cordes, parce que ça se met sur les cordes comme ça, ouvert, le quatre est ouvert. Voilà, et c'est une manière, dans cette population qui n'a évidemment pas d'argent, pas d'édition, etc., de faire passer des textes à prix coûtant. Et on trouve ça sur les marchés. Voilà, donc on a repris cette idée-là, et on a créé des collections avec les gens de Saint-Michel, qui sont pareils, qui sont formatés, qui sont toutes les mêmes, puisque nous, on sait faire des formes, ben on les fait bien, de manière à ce que ça ait un résultat professionnel, que tout le monde puisse être rassemblé sous une étiquette commune. Et voilà, donc ça aussi, c'est vous l'avez vu dans la vidéo, hein, c'est une des propositions qu'on a retenues. Port-Sainte-Marie aussi, c'est né dans un collège, cette initiative-là. La prof d'art plastique a dit ce serait bien qu'il y ait des portraits qui soient affichés. Donc on a créé un protocole, un format A3, technique libre, mais par contre on se dessine de là à là. C'est presque le format de sa propre tête, donc c'est vraiment comme si on rencontrait les gens en face à face. Et ça c'est pareil, on les a pendus sur un fil dans toutes les vitrines de la ville. Il y avait un espèce de fil continu comme ça, avec plein de gens qui s'étaient auto-représentés et qui vous regardaient droit dans les yeux. Voilà. Donc, on a des trucs parce que ça rassure les gens, parce que ça nous rassure à nous aussi, comme toutes ces choses-là. On a des formes qui peuvent contenir un maximum de contenu dans la manière la plus libre possible. Et ensuite, on va en inventer d'autres au fur et à mesure. Voilà. Là, par exemple, ce qui est assez nouveau dans notre démarche, c'est maintenant, on fait des chansons aussi avec les gens. Depuis un an et demi, deux ans, on s'est attaqué, toujours dans cette idée de choses du vulgus, on s'est attaqué à la chanson populaire. Et on enregistre les gens, ils nous chantent a cappella leurs chansons. Donc ça peut être une chanson traditionnelle, mais aussi leur propre chanson à eux, qu'ils ont inventée, ou bien la chanson qu'ils ont toujours dans la tête. Donc c'est un projet qui s'appelle La La La, chanson sous la douche. Voilà, c'est vraiment la chanson qu'on chante sous la douche chez soi. Et cette chanson-là, on l'enregistre a cappella. Et ensuite, Benjamin, qui est là, qui est également un artiste qui travaille à l'association d'un clin d'œil entre autres, Benjamin Charles, et qui est porteur, lui, de ce projet-là, et qui est également musicien, va arranger une musique autour de cette prise de son, mais pas en essayant de refaire la chanson originale avec une autre voix, mais bel et bien en partant de la voix de cette personne-là, voire de sa fausseté parfois, de ses silences, de ses hésitations, etc., etc. Voilà. Et ensuite, dans les formes que ça prendra, il y aura également, on espère ce livre-là. S'il n'y a pas ce livre-là, c'est parce que si on n'a pas trouvé cet argent-là, on fera des PDF qui seront téléchargeables et qui seront interactifs. De toute façon, on le fera, qui ramèneront sur des vidéos, des sons, etc. Et on fera également certainement des audioguides qui seront téléchargeables sur smartphone pour tout le monde. Voilà. Mais l'idée de ce guide décalé des quartiers, c'est par exemple à un moment de s'asseoir sur un banc, à un espace, et d'avoir quelqu'un qui vous chante une chanson, quelqu'un qui habite là. Voilà, ça peut aller jusque-là. Ça veut dire qu'on va trouver des recettes, ou manger, ou boire un coup, ou faire du shopping, ou se balader, mais aussi qui rencontrer dans ce quartier, aussi où flâner, comment flâner, quelles petites histoires il s'est passé. Donc ça peut être l'histoire de la dame qui habite au numéro 12, qui a rencontré la dame qui habite au numéro 13, et voilà ce que ça a fabriqué. Enfin, ce sera à la fois la grande histoire, mais qui sera vue par ses habitants, et aussi la petite histoire quotidienne, ce qui se passe réellement dans ce quartier, et ce qui s'y est passé, puisque, évidemment, ce sont des quartiers qui sont en pleine mutation, dont les populations changent. Il reste encore une espèce de population d'origine qui est là depuis très longtemps, mais il y a également plein de primo-arrivants à tous les niveaux sociaux qui arrivent dans ces deux quartiers-là, quoi. Et je pense que c'est pas fini, notamment à Bacalan. Trois ans ? Ouais. Alors déjà, il reste un livre qui s'appelle « Saint-Michel m'en vôtre ». Je pense qu'il en reste encore au centre d'animation Saint-Michel. Un livre qui a été distribué gratuitement et à tous les gens qui ont participé. Donc ça veut dire aussi aux enfants de toutes les écoles, de toutes les classes des deux écoles, trois écoles même, ce qui est quelque chose de très, très, très important pour nous. Ensuite, on y a passé deux ans à y être quotidiennement dans des ateliers. Donc ce qu'on a pu mesurer, c'est le besoin de parler des gens. Donc j'espère qu'on leur a donné cet outil-là. Et à Port-Sainte-Marie, ça a été pareil. Hein. On a fait un livre. Ce que nous ont renvoyé les gens, c'est que leur parole avait une importance parce qu'elle était publique. Enfin, publiée. Voilà. Je pense que le fait d'inscrire les gens dans un livre... C'est quelque chose de très important, et notamment pour beaucoup de populations avec lesquelles on travaille, pour qui le livre, c'est sacré. C'est un espace, c'est genre, moi, je n'ai pas accès, quoi. Je ne sais pas bien lire, je ne sais pas bien écrire. Voilà, je n'ai pas de livre chez moi, je passe par d'autres moyens, mais le livre, non, c'est trop sacré. Et je pense qu'il y a ça, il y a le fait de... ils sont auteurs du livre, leur nom est dans le livre. Donc ça veut dire qu'ils ont non seulement un livre avec leurs paroles, mais leur nom est cité. Si vous regardez les blablabla, ça commence toujours avec... La première chose, c'est avec les bons mots de. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important. C'est de placer les gens avec qui on travaille en premier, parce que c'est notre matière première, mais c'est aussi grâce à eux, c'est grâce à cette rencontre qu'on arrive à faire des choses. On les cite de cette façon parce qu'on veut que ça reste anonyme, de manière à ce qu'ils puissent aussi avoir une liberté d'expression. C'est-à-dire, chacun ne signe pas la phrase, le dessin, etc., qu'il a dit. Pardon, mais signe un livre qui est un collectif, qui est vraiment réalisé dans l'esprit d'un collectif qui participe à un projet d'art participatif. Après, ce qu'on y a laissé à long terme, je ne sais pas trop le mesurer. Ce qui est sûr, c'est que On a fait le blablabla en même temps. C'est qu'il y a des gamins qui, moi, m'appellent Madame Blabla et que je retrouve encore quand je vais boire un coup à Saint-Michel. Benjamin et Monsieur Blablabla. Ou c'est, ah, toi, tu as fait le blablabla, toi. Enfin, bon, voilà. Je pense qu'on y a laissé des traces à un moment. Et on a fait des rencontres qui sont, pour nous, importantes. Alors après, on ne va pas rentrer dans le sujet de qu'est-ce qu'un artiste fabrique quand il rencontre des gens, parce que je pense que c'est un énorme débat. C'est une chose sur laquelle on nous demande toujours des évaluations, évidemment. Ce sont toujours des évaluations quantitatives. Et nous, on se bat pour réfléchir au terme même de l'évaluation des projets qu'on fait, puisque ça ne se compte pas en termes de personnes qui participent aux ateliers, mais en termes de qualité des rencontres et de temps. Ça, c'est vraiment, pour faire une rencontre, on a besoin de temps. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très, très difficile à évaluer ces choses-là. Ce que je sais, c'est qu'il y a, sur d'autres projets, il y a des enfants avec lesquels j'ai travaillé, qui avaient 6, 8 ans, qui viennent me voir aujourd'hui à n'a qu'un œil et qui sont étudiants, par exemple. Voilà, c'est des rencontres fortes et pour certaines, c'est des rencontres qui durent. Les gamins de Le Saviez-vous, là, on les retrouve tous les ans. Et chaque fois, ils viennent nous voir avec un grand sourire au Festival des lycéens, hein, qui est une grande rencontre pour les lycées. Parfois, on retrouve les gamins avec lesquels on a bossé 4, 5 ans avant, qui viennent nous voir. Ils disent, ah, ça va, etc. Je m'en souviens, c'était bien. Voilà. C'est vraiment des choses qui sont difficiles à mesurer, je dirais, et qui sont de l'ordre du sensible, quoi, de la rencontre. Voilà, mais moi, je crois que de toute façon, n'importe quelle action qui fait parler les gens, qui prend en compte leurs paroles, qui leur amène des formes professionnelles qui respectent leurs paroles et qui les amène dans un autre monde, qui les rend public. Je trouve que c'est hyper important et même que c'est primordial, quoi.
Est-ce que vous avez l'impression, au travers de cette capacité à prendre la parole, que ça facilite leur participation à d'autres actions publiques ou à d'autres ou à des consultations sur ce que pourrait devenir leur quartier? Est-ce que vous avez l'impression que ce travail, qui peut être plus poétique quelquefois que pratique, ça les aide à un moment donné prendre un peu un plus en main, soit leur vie, soit leur environnement, soit leur maison. Comment est-ce que vous faites le lien entre quelque chose qui est à la fois symbolique et imaginaire et quelque chose qui va être usagé, quotidien, je dirais pas chiant, mais peut-être un petit peu moins pratique. Ouais, voilà.
Moi, je pense qu'on leur amène, c'est un regard, en fait. C'est le fait de... Et c'est aussi ça d'intervenir dans l'espace public, quoi. On leur apprend à regarder les images différemment, on leur apprend à en fabriquer. Donc du coup, il y a, pour beaucoup de gens avec lesquels on a travaillé, il y a quelque chose de l'esprit critique qui se développe. Alors peut-être un exemple, hein, c'est avec les ados, beaucoup, qui parlait de la sarkozyte, par exemple, avant l'élection de Sarkozy, qui était une maladie qui rend très raciste, très méchant, etc. Moi, je leur ai dit, je ne veux pas l'écrire dans le dictionnaire, ça, on ne pourra pas le mettre. Et ils nous ont dit pourquoi. Je leur ai dit, parce que si on dit la sarkozyte, on peut parler de la carolite, donc je m'appelle Carole, hein, qui fait parler très vite et qui fait bouger tout le temps, ou de la voisinite qui fait que tu vas dénoncer ton voisin. Donc on ne va pas mettre de nom, par contre on va essayer de réfléchir à ce qui te gêne là-dedans, à ce que tu veux dire quand tu dis que ça rend très méchant et que ça rend raciste, à ce qui a changé, etc. etc. Donc je pense que c'est par là que ça peut amener aux usagers quelque chose du changement du quotidien, par le fait qu'on écoute leurs paroles et qu'on réfléchit avec eux et qu'on donne de l'importance à cette parole-là. Voilà. Après, est-ce qu'ils vont dans les assemblées consultatives, etc. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que sur Saint-Michel-Montvautre, ça a rendu beaucoup de gamins sensibles à leur environnement, sur des choses qu'ils ne voyaient pas forcément. sur autant une inscription qu'ils n'avaient pas vue sur un mur sur leur trajet quand ils vont à l'école, mais aussi sur la façon dont une personne adulte pouvait voir le quartier, mais aussi sur comment une personne qui habitait ce quartier-là depuis longtemps racontait des choses qui s'étaient passées dans ce quartier tout près de chez eux, là où ils vivent aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses-là, quoi. Et j'avoue même que le fait de ne pas mesurer, alors je me pose de manière irresponsable volontairement, de ne pas mesurer l'action qu'on peut avoir sur ce qu'on mène avec ces gens-là, c'est une volonté, parce que c'est bien aussi de disparaître, de fabriquer de laisser des traces, mais de faire que ce soit ces traces qui existent et pas nous, quoi. Enfin, de disparaître derrière ça. Ah si, on le dit aux gens quand même. Ça dépend. Ça dépend. Il y a aussi le travail qui parle. On a 18 ans de boulot et je pense que ça parle tout seul, quoi. C'est suffisant. Et puis encore une fois, nous on ne sait pas se vendre. On est très très mauvais là-dedans. On ne sait pas. Vous voyez, je ne suis pas très, très à l'aise à parler dans un micro, assise sur un cube rouge, dans un hangar énorme. Ce n'est pas trop mon truc, quoi. Voilà. Donc, je pense que quand on passe, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce teaser-là, parce qu'on passe par nos formes à nous pour expliquer ce qu'on fait. C'est très difficile d'avoir le vocabulaire des gens qui vont nous donner de l'argent, etc. Pour Impact, par exemple, la fondation de le truc de fonds de dotation... De la place Vendôme, on nous a demandé de faire une vidéo, mais au téléphone, quoi. Genre, on se présente. Mais moi, j'ai passé, et il fallait dire, c'est pour ça que ça commence par le nom, etc., qui on était, ce qu'on voulait, quel était notre projet, etc. Et ça, en 4 minutes. Et vraiment, la dame d'Impact me disait, il faut faire ça de manière hyper simple, quoi. Mais moi, je ne sais pas faire. J'ai passé une journée, ça a été l'horreur. Je n'y suis pas arrivée. Et finalement, je l'ai fait je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Mais j'ai dit aux gens, je ne sais pas faire ça. Je veux bien jouer le jeu, mais pardonnez-moi. Voilà. Le seul truc que j'avais mis, c'était un t-shirt avec un tractopelle, parce que ça m'aidait. Mais voilà, et total, les gens qui ont reçu ça, qui sont des mécènes de alors, il y a quoi dedans ? Il y a la Caisse des dépôts et des consignations, il y a la Poste, il y a Dassault, il y en a une quinzaine ou une vingtaine de gros mécènes comme ça. La commission, et le retour qu'on en a eu, c'est que ça les a touchés parce que c'était du brut, quoi. C'était, voilà. Oui, ils nous suivent. Amélie ?
Merci. Donc oui, ils nous suivent. On a des... par exemple, peut-être, mais on les avait invités. Après, ils ne pouvaient pas se déplacer aujourd'hui parce qu'ils sont à Paris et beaucoup de choses à faire. Mais effectivement, on leur envoie des comptes rendus assez régulièrement, de manière très informelle aussi, vraiment leur expliquer où on en est, quels partenaires on a rencontrés, les nouvelles personnes qui ont envie de travailler avec nous, qui nous proposent des projets aussi, des envies, qui se positionnent sur ça, quand est-ce qu'on va les rencontrer. Là, on a le centre d'animation Benoge, qui est un journal, en fait, le journal de la Benoge, qui a fait un article sur l'association, sur le projet. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on va envoyer. Bien sûr qu'après, ils ont besoin de voir des rapports de presse, comme là, par exemple, le fait qu'il y ait une conférence sur ce projet. Ça, c'était aussi important de les informer sur ça. Voilà.
Et après, de toute façon, on remplit les fameuses fiches d'évaluation. Alors, peut-être pas avec Impact, mais avec beaucoup d'autres... institutions, on remplit ces fameuses fiches d'évaluation que l'on remplit de toute façon dans tous les dossiers que l'on fait, quoi. Mais on essaye d'être sincère. Par exemple, quand on nous demande qu'est-ce que c'est tous les ans, il y a une question comme ça dans un des dossiers de subvention qui est le rapport à la quantité des gens qui viennent à nos manifestations. Voilà. Et ben nous, tous les ans, on dit ben, plus il y a de gens, plus on est content. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Enfin, c'est, voilà, on nous demande de compter les gens, les hommes, les femmes et les enfants. Donc nous, on dit qu'on peut compter les hommes et les femmes parce qu'il faut être adhérent. Enfin, on fait des adhésions d'un soir. Chaque fois que quelqu'un vient à une soirée et qu'il boit un verre, en fait, on lui donne une carte d'adhérent en lui expliquant qu'il est adhérent d'un soir pour qu'on puisse faire la licence, pour qu'on puisse lui vendre de l'alcool, tout simplement. Voilà. Donc du coup, on a des traces. Donc on peut savoir combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, mais on ne sait pas combien il y a d'enfants parce que c'est gratuit pour eux. Donc voilà, donc tout ça, on l'explique. Je pense qu'aussi, là, quand je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas le même vocabulaire et qu'on n'avait pas les mêmes... Je crois qu'on n'a pas les mêmes pourquoi. On ne fait pas les choses pour les mêmes raisons. Et il n'y a pas de bonnes et de mauvaises raisons. Et je pense qu'à partir du moment où on sait ça, où on est capable d'en parler avec ces gens-là et de leur dire ce que vous dites, moi, je ne comprends pas, ça ne me parle pas. Et de leur dire, et vous, qu'est-ce qui ne vous parle pas dans ce que moi, je dis ? Nous, on est sur le terrain. Eux, ils doivent rendre compte de, alors en fonction des niveaux et des institutions, ça diffère, mais de mesures préfectorales, de mesures gouvernementales, de choses d'une manière qui leur est, pour certains, pas tous, mais pour certains, complètement abstraite. Donc, il faut aussi que nous, on puisse leur expliquer ces choses-là et leur donner des outils pour qu'ils puissent, eux, répondre à leur propre pourquoi. Voilà. Et je pense que c'est plus dans cette... encore une fois, c'est beaucoup de temps, c'est... Il y a des gens dans les institutions qui nous ont dit « mais c'est très bien ce que vous répondez parce que ça nous aide à reformuler les questions ». Et ça, c'est vachement important. Je crois que la rencontre, elle se fait aussi à ce niveau-là. Il faut accepter que ces grilles d'évaluation, elles sont faites pour répondre à des commandes qui sont loin d'être les nôtres. Voilà. Donc on peut y répondre, mais dans la mesure de nos moyens. Et on peut aussi expliquer pourquoi on ne peut pas y répondre. Et on peut aussi essayer de comprendre ce qu'eux attendent. Mais il y a eu des fois où on a refusé des financements, par exemple, où on a dit, bah non, quoi, on nous demandait de compter les sans-papiers, les situations sociales des gens, quoi. Et nous, on a dit non. Voilà, on a dit que c'était hors de question. Et finalement, ça s'est fait parce que la dame, elle m'a dit, bah, doucement, je lui ai dit, mais ça veut dire que concrètement, l'argent que vous nous donnez là, si on travaillait avec une personne qui était noire, en milieu rural, homosexuelle, malade, illettrée, avec des enfants, voilà, etc., on aurait tous ces sous pour travailler qu'avec elle, en poussant le raisonnement jusqu'au bout. Et la dame nous a dit, bah, oui, bien sûr, c'est ce qu'elle nous a dit. Et elle était consciente de l'aberration de la chose, mais voilà. Donc on a trouvé un autre moyen de faire les choses. Ça veut dire qu'eux, ils ont financé les ateliers avec les publics qu'ils voulaient financer. Et nous, les écrits nous appartenant, puisque nous en sommes des auteurs, on les a mélangés dans le blablabla, qui, pour nous, est un livre anti-ghetto dans lequel on va volontairement mélanger les niveaux sociaux, mais aussi les niveaux de langage. Quoi. C'est, voilà. Ça répond à votre question ou je suis partie ? Donc, je vous invite à aller voir ça, qui est le CAPC, là, le travail au CAPC. Un musée, c'est comme un iceberg, qui est un travail qu'on a réalisé pour Agora. On a passé une semaine avec les gens du musée. Et je pense que là, vous allez comprendre tout ce que je vous ai raconté. Ça se voit très, très bien sur les murs du musée. Si, ça y est encore, parce qu'on a fait ça à la pâte à fixe. On n'avait pas le droit d'utiliser de la colle, donc on fait ça à la pâte à fixe. Voilà. Et vous verrez qu'il y a l'histoire de ce bâtiment qui est vue par les gens qui l'ont habité, qui l'habitent encore. Et tout ce qu'on... Alors, l'idée, ce n'est pas de dévoiler l'intime des gens, mais c'est plus de montrer l'histoire du CAPC vue par les gens de l'intérieur. Voilà. Et avec tous ces niveaux-là. Donc, il y a des surveillants qui parlent, il y a des gens de la direction, on n'a pas rencontré d'artistes, malheureusement. Mais il y a vraiment plein de choses très très belles, quoi. Je pense que ça vous donnera une idée de ce que j'essaie de vous raconter là. Merci. Ben voilà.